Bonjour et bienvenue dans La Tribu. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission réalisée par des élèves du lycée Grand Air de La Baule qui ont un projet de web radio dans leur lycée. Bonjour, bienvenue sur Dunaire pour notre première émission de l'année. On va commencer par un petit tour de table pour que vous puissiez bien suivre lors de cette émission. Swan, je te laisse commencer.
Bonjour, je m'appelle Swan, je suis en seconde.
Alors moi c'est Angelina, je suis en première.
Moi c'est Louise, je suis en première aussi.
Et moi je suis Clotilde et je vais animer cette émission avec Anna, seconde.
Pour commencer cette émission avec Clotilde, on va vous proposer un petit retour sur l'actualité du début d'année.
En effet, nous allons revenir sur une décision de l'État avec Swan qui va nous parler
de l'écriture inclusive. Donc, le Sénat a décidé de voter une proposition de loi visant à protéger le français des dérives de l'écriture dite inclusive en interdisant l'usage. La proposition de loi prévoit aussi d'inscrire l'interdiction de l'écriture inclusive dans le Code de l'éducation. Le texte prévoit également d'interdire certains néologismes comme « yel », mélange neutre de « il » et « elle » ou bien « celle-le » qui suit la même logique. L'écriture inclusive est une méthode parmi d'autres mise à notre portée pour restaurer l'égalité entre les genres féminin et masculin. L'utilisation de l'écriture inclusive a pour première vocation de respecter une meilleure représentation des hommes et des femmes dans les textes. En effet, la règle grammaticale qui indique que le masculin l'emporte sur le féminin efface toute présence féminine parmi un groupe mixte. Dans chaque texte non inclusif, les femmes se voient désignées par le pronom « il » ou « eux », non pas parce qu'elles seraient minoritaires, mais tout simplement car le masculin l'emporte sur le féminin. Le président Emmanuel Macron a pris la parole le 30 octobre lors de l'inauguration de la Cité internationale de la langue française. Il affirme son soutien à ce projet. Je cite « Il faut permettre à cette langue de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots, y compris à l'autre bout du monde, de continuer à inventer, mais de garder aussi les fondements des socles, de sa grammaire, la force de sa syntaxe et de ne pas céder aux airs du temps. » On comprend par le sous-entendu des airs du temps la volonté d'égalité de représentation dans la société exprimée par des communautés dites minoritaires, malgré le fait que la moitié des humains soient des femmes, telles que le féminisme et la communauté queer qui soutiennent l'écriture inclusive. Pour de nombreuses personnes qui ne se reconnaissaient pas dans les critères de genre ou qui ne sont pas cisgenres, cette écriture est une libération et permet d'enfin briser les tabous autour de cette notion. Ce changement dans la langue n'affecterait le bien-être d'aucun des genres puisqu'il est neutre, alors pourquoi ne pas le mettre en place? Cette langue a la spécificité de genrer les objets et les animaux contrairement à l'anglais. Pourquoi se fixer des barrières sur les genres des autres et ne pas adopter un pronom universel car nous sommes toutes et tous humains? De plus, la grammaire française serait-elle vraiment perturbée et les conversations incompréhensibles? Lorsqu'on utilise le pronom « elle » ou « il », on peut déjà se demander de qui on parle. Et l'orateur ou l'oratrice clarifiera en donnant le prénom de celle qui elle désigne. Alors pourquoi ne pas adopter ce changement qui pourrait soulager de nombreuses personnes et nous faire progresser dans l'égalité des genres? Dans le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, ne devrions-nous pas tous faire en sorte que chacun et chacune puisse être représenté? Selon le président, deux raisons justifient cette interdiction. Je cite « parce que la langue bâtit l'unité de la nation et parce que la langue française est une langue de liberté et d'universalisme ». On peut se demander si le président a essayé d'imaginer de ne pas être un homme et de devoir se reconnaître et s'identifier depuis qu'il est né à des textes qui l'invisibilisent complètement. Il ajoute « dans cette langue, le masculin fait le neutre, on n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots ou des tirets ou des choses pour la rendre visible ». L'aspect discriminatoire de cette mesure est clair dans ses propos. Si on ne rend pas de personnes visibles, alors on les invisibilise. La réponse de la députée écologiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian, je cite « Nous ne sommes ni masculines ni neutres, nous sommes des femmes et nous en avons assez d'être invisibles et inaudibles dans notre langue. Pourquoi serait-ce si difficile à comprendre ?» Sa réponse est complètement cohérente face aux propos contradictoires de la neutralité du masculin.
Merci beaucoup Swan de nous avoir expliqué avec plus de détails cette décision qui a été faite il y a quelques mois.
Pour continuer, on va vous proposer de revenir sur une autre décision, un peu plus récente cette fois-ci, celle de l'uniforme à l'école. Clotilde, je te laisse nous faire le point.
Alors, l'uniforme à l'école est une décision qui a été amenée par notre ancien ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. En effet, il a annoncé la période de lancement pour l'essai de cet uniforme dès le début 2024 dans une centaine d'établissements. Si le succès de l'uniforme est concrétisé, alors ce serait des mesures appliquées dès la rentrée 2026.
Alors, on va faire un petit tour de table. Vous, l'uniforme, vous en pensez quoi ?
Alors moi, c'est vrai que je suis un peu mitigée. Il m'est arrivé de discuter avec une fille qui venait d'Australie, et là-bas, l'uniforme s'est généralisé pour tout le monde. Et elle me disait que ça permet d'éviter les discriminations. Et lorsqu'elle est venue en France, elle a vu que c'était pas du tout comme ça, mais c'est vrai qu'elle regrette pas du tout de porter l'uniforme. Ça lui permettait aussi de garder des tenues pour le week-end, tout ça, c'était pas mal, elle m'a dit.
Moi, je suis pareil, un peu mitigée, j'ai pas forcément d'avis. Je pense que les objectifs visés sont pas mal. Après, est-ce que ça a réussi véritablement à supprimer les inégalités sociales? Ça, je sais pas trop, mais bon.
Pour ajouter sur le fait d'invisibiliser les inégalités, en fait, dans des pays comme l'Angleterre, sur certains uniformes, il y a plusieurs prix pour le même uniforme. C'est-à-dire qu'on dit que l'uniforme va invisibiliser nos différences, sauf que si ton uniforme, il a été retouché par un tailleur et que du coup il est parfaitement à ta taille, bah on va bien voir la différence avec la personne qui n'a pas pu se racheter un uniforme en début d'année.
Bah c'est vrai qu'il faudrait éviter ce genre de discrimination, parce que si on met un uniforme, c'est tous le même, pour tout le monde quoi.
Et c'est intéressant, ton amie qui était en Australie, du coup quand elle disait que ça invisibilisait les discriminations, enfin que ça permet de mettre tout le monde à égalité. Est-ce que elle a vu des choses concrètes? Est-ce qu'elle a vu par exemple moins de discrimination et vraiment une égalité? Parce que bon, c'est vrai qu'on sait qu'il reste toujours le cartable, les chaussures, tout ça, c'est des détails entre guillemets, mais dans la tenue ça se voit et ça reste des points de discrimination, même si on porte tous la même chemise. Si on voit qu'il y en a un qui est mieux coiffé, mieux, il y a plein de choses qui pourraient rester.
Ah mais c'est sûr que les discriminations, ça va pas disparaître du jour au lendemain, mais après elle pouvait pas trop comparer parce que elle était en études supérieures donc en France, donc ça changeait pas de l'Australie. Elle a pas pu comparer par exemple au collège ou au lycée, mais elle m'a dit que elle trouvait sympa le fait que ça mettait presque, en tout cas je comprends, tout le monde à peu près, ils arrivent au lycée ou au collège sur les mêmes tenues quoi.
Mais est-ce que les vêtements qu'on porte pas nous, c'est aussi un moyen de nous définir en tant que personne et dire regardez, moi je sais pas, j'ai mis des chaussettes colorées aujourd'hui, je suis quelqu'un de sympa quoi.
Après je crois qu'on peut toujours mettre les chaussettes qu'on veut, c'est que ouais, c'est que la tenue, le pantalon et le haut, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quand même une dose de liberté individuelle et de personnalisation, comme vous êtes des sacs et des chaussures qui peuvent d'un côté indiquer des inégalités sociales, mais qui peuvent toujours aussi laisser les gens un peu s'exprimer. Voilà.
Après, moi, je suis d'accord que ça a pourtant aussi atteinte à la liberté. C'est pour ça que je suis assez mitigée sur le sujet. Ouais. Après, on verra, c'est qu'une expérimentation pour l'instant.
D'accord, merci beaucoup pour vos réactions sur le sujet. Je vous propose maintenant de passer, tout en restant sur l'éducation et ses conséquences, à une petite chronique Femmes et mathématiques qui a été faite par Zoé, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui.
Terre accueillait Madame Anne Boyer le 10 octobre, présidente de l'association Femmes et mathématiques, à l'occasion d'une conférence informative sur l'histoire des femmes en sciences. Quelle n'eût pas dû être sa surprise en se trouvant confrontée à une foule de presque 30 élèves dont la parité inexistante mérite d'être soulignée. On pouvait en effet apercevoir près de 2 jeunes garçons dans l'audience, un record de féminisme. Wow ! Et son admiration pour la jeunesse a forcément été décuplée, lorsque, après avoir demandé des noms de femmes scientifiques connues, seule notre très chère Marie Curie sortit de la bouche des élèves. Heureusement, malgré quelques légers problèmes techniques liés à l'utilisation de complexes outils numériques tels que PowerPoint, la conférencière réussit à rectifier ce manque cruel de culture générale. En effet, lors de sa présentation, Madame Anne Boyer expliqua, aussi surprenant que cela puisse paraître, que femmes et mathématiques sont en fait un peu comme les célèbres Roméo et Juliette de Shakespeare. Effectivement, les hommes, oui, crachant toujours plus sur le patriarcat, ont longtemps empêché les femmes de cultiver leur amour des sciences dures. Quelques chiffres. pour le plus grand plaisir de nos trois auditeurs annuels, car quitte à parler maths, autant le faire à fond. Dans la première édition du dictionnaire scientifique des biographies, il y avait 6 femmes sur un total de 966 entrées. Clotilde, ça nous fait combien de pourcents, dis-moi? Ok, bah très bien. Le timer a un peu été dépassé, mais bon, c'est pas grave. Si t'as pas su déterminer, c'est assez normal. Mais pour ceux qui ont su déterminer que ce pourcentage de femmes était de près de 0,6%, le bon sens en déduit que vous êtes un ordinateur humain et l'histoire que vous êtes soit un homme brillant, soit, si vous êtes une femme, que votre mari mérite d'être récompensé pour votre force de réflexion. Vous trouvez cette dernière conclusion choquante? Bravo. Vous venez de faire la découverte de l'effet Matilda, défini sur Wikipédia comme...
la minimalisation récurrente et systématique de la contribution des femmes à la recherche scientifique, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins.
Ce fut célèbrement le cas pour la mathématicienne anglaise Grace Young et son mari William Henry Young, ou encore, possiblement, de Mileva Einstein. La conférencière prit aussi un plaisir fou à utiliser l'écriture inclusive à l'oral, au grand malheur de notre président, sur des mots tels que « scientifique », ne nécessitant pas cette attention, bien qu'elle fût appréciée. Apparemment, ce type d'énonciation soulignant les « e » féminins silencieux est commun aux historiennes scientifiques féministes et à notre très chère Madame Trémel. Enfin, l'audience de cette conférence eut le plaisir de s'entendre répéter que les femmes de nos jours restent minoritaires en sciences, notamment avec seulement 28% de femmes en école d'ingénieurs. Pourtant, comment en vouloir aux femmes de ne pas souhaiter poursuivre de telles études quand il est encore ancré dans l'imaginaire populaire que
une femme mathématicienne est soit un extraterrestre, soit un garçon manqué.
Comme souligné par Madame Nalini Anantharan. Peut-être, aussi, que rappeler en permanence aux lycéennes que leur avenir en sciences sera plus dur mentalement dû à cet isolement social des rats de la prépa, ou à l'inverse au plafond de verre que rencontrent les femmes souhaitant fonder une famille, n'est pas la stratégie la plus efficace en termes de motivation. Le plafond de verre, c'est l'observation dans le monde du travail que la proportion de femmes diminue avec le niveau d'études ou la hiérarchie, et c'est fortement observable en sciences. Et toutes les jeunes filles n'aspirent-elles pas à étudier longtemps au risque de ne pas se voir offrir les postes correspondant à leurs compétences ? Afin de ne pas engendrer une vague incontrôlable de suicide que l'INSEE se serait fait un plaisir de représenter à l'aide d'une jolie exponentielle rose sur son rapport de 2023, la conférencière prit tout de même le soin d'égayer l'atmosphère en partageant une encourageante citation du marquis de Condorcet.
Ce n'est pas la nature, c'est l'éducation, c'est l'existence sociale qui cause cette différence.
Et non, mesdames, ce n'est pas votre identité de genre qui vous limitera dans la vie, c'est ce que la société vous répète. En tout et pour tout, cette conférence fut aussi informative que déprimante, et il faut espérer que dans le parcours SUP de Madame Claire Mathieu l'année prochaine figureront plus de femmes en sciences. Car jamais, au grand jamais, il ne faut souhaiter aux prochaines générations de grands airs de subir ce calvaire.
J'espère que cette chronique sur les mathématiques vous aura plu. Je vous propose maintenant de changer tout en restant sur la culture.
Et oui, car en effet, on va vous proposer une petite chronique cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, les filles ?
Oui, alors à l'affiche aujourd'hui, nous allons parler du film Wonka, réalisé par Paul King avec Timothée Chalamet, Hugh Grant et Kala Lane. Le film retrace la vie de Willy Wonka, son entrée dans le monde de la chocolaterie, avant de devenir celui qu'on connaît tous dans Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl.
Personnellement, je n'ai pas lu le livre, mais lorsque nous sommes allés au cinéma, j'avais le film, vous savez, celui de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie. Et j'étais assez surprise de voir que les deux films n'avaient pas le même historique.
Oui, moi aussi, je m'attendais à un certain lien. En fait, on est allé voir le film avec aucune idée ou espérance pour le film et on était assez surprise, notamment de l'aspect musical.
Oui, je trouve que le type de comédie musicale donne un aspect assez enfantin, même si c'est le but recherché. J'ai bien aimé, en revanche, les musiques du film, mais les effets spéciaux éblouissants sont pour moi assez excessifs. Même si le but est de montrer que Wonka n'est pas seulement un chocolatier, mais aussi un magicien. Le côté bonbon de toutes les couleurs est assez présent et ne laisse pas de place pour l'intrigue.
C'est vrai que le public visé est assez jeune, je pense, mais ce que j'ai pu apprécier, c'est la mise en couleur. Justement, cet aspect bonbon, je trouvais ça assez joli. Le film est vraiment assez beau. Il y a un travail sur l'esthétique et sur les décors, par exemple.
Ah oui, l'esthétique des décors m'ont plu. De plus, les acteurs... comme Timothée Chalamet qui joue Wonka, lui, il a su bien alterner entre le comique du personnage et ses ambitions. Quant à Hugh Grant, qui prend le rôle d'un Loompa Loompa, à la peau orange et aux cheveux tout verts, peut faire peur un peu, mais est surtout intriguant. On a envie de savoir pourquoi il est là.
C'est vrai, j'ai trouvé que les acteurs étaient très bons dans leur rôle. Au final, j'ai trouvé le film assez sympathique.
Moi aussi, le film m'a plu. Si ce n'est la musique... Et bien sûr, je retiendrai la danse d'Oompa Loompa qui était assez virale sur les réseaux sociaux. Ce film m'aurait sûrement bien plu il y a quelques années lorsque je croyais encore à la magie et au Père Noël.
Si vous voulez retrouver la magie du chocolat, rendez-vous dans les salles de cinéma avec Ronka.
À bientôt.
Merci beaucoup Angelina et Louise pour nous avoir donné vos impressions sur ce film dont nous avons beaucoup entendu parler.
Toujours dans la tribu avec les élèves du lycée Grand-Air de La Baule.
Un autre thème que nous avons abordé qui peut être en lien avec le cinéma est l'hypersensibilité. En effet, celle-ci peut se retrouver notamment dans les réactions face à ce film. Je vais donc laisser Anna vous parler de ce sujet.
Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, chers hypersensibles, cette chronique est pour vous. Le 13 janvier, c'était la journée nationale de l'hypersensibilité en France. Et je voulais vous offrir une chronique radio à votre image. Être hypersensible, c'est comme marcher pieds nus sur un champ de roses. Bon, ok, parfois il y a des épines, mais on les surmonte avec style et avec grâce. L'hypersensibilité, c'est un cadeau dont on apprend à se servir toute notre vie. Souvent incompris, qualifié de pleurnichard ou de drama queen. Les hypersensibles sont en réalité des êtres dotés d'une intensité émotionnelle rare. Parfois, on se sent comme des éponges absorbant les émotions semblables à celles de nos interlocuteurs. Mais c'est aussi cela qui nous permet de comprendre et d'apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin. Ah, les larmes. Ce liquide précieux qui coule dans nos yeux, telles les chutes du Niagara émotionnel. Rien de tel qu'une bonne séance de pleurs pour libérer nos émotions et nettoyer notre âme. Vous ne trouvez pas ? Mais les hypersensibles ont aussi leur petit tracas du quotidien. La fameuse réaction lorsqu'on nous demande « Mais pourquoi est-ce que tu pleures ?» suivie d'un regard perplexe. Comment leur expliquer que l'intensité de nos émotions peut être déclenchée par une pub pour une marque de papier toilette ou le passage douloureux d'une mouche écrasée sur le pare-brise ? Mais saviez-vous que l'hypersensibilité est aussi un super pouvoir ? Pouvoir ressentir avec une telle intensité, c'est comme voir le monde en technicolore alors que tous les autres sont en noir et blanc. Les petits plaisirs de la vie prennent une dimension magique. Une brise légère, une douce mélodie, ou un simple câlin ont le potentiel de nous emporter dans un océan d'émotions. Prenez soin de vous, chers auditeurs hypersensibles, et continuez à illuminer le monde avec vos émotions. Chérissez votre sensibilité à fleur de peau, car après tout, c'est ça qui fait de vous des êtres uniques et attachants.
Merci au lycée Grand-Air de La Baule. Nous espérons vous proposer une nouvelle émission de la réalisation très bientôt dans la tribu.